Chapitre 8. Le téton de verre, ou ce monstre vous était offert par Gainsburgers. 1. Écoutez-moi, ô foules ignorantes, j'ai une révélation à vous faire. Si vous pensez que la télé vous pompe l'air, vous vous mettez le doigt dans l'œil jusqu'au coude. Comme l'a fait remarquer Harlan Ellison dans ses essais tantôt hilarants et tantôt dévastateurs, la télé ne vous pompe pas, c'est vous qui la pompez. Ellison a écrit un brûlot en deux volumes sur la télé, qu'il a intitulé « The Glass Teat ». Et si vous ne l'avez pas lu, permettez-moi de vous le recommander sans réserve. Jamais on n'a conçu boussole plus efficace pour explorer ce territoire. Quand j'ai dévoré ces bouquins il y a 3 ans, le fait qu'Ellison ait consacré autant de temps et de pages à des séries aussi peu mémorables qu'Opération Danger ne m'a pas empêché d'être aussi secoué que si je venais d'entendre un discours fleuve de Fidel Castro. Je veux dire, d'un Fidel Castro dont on aurait rechargé les batteries. Ellison ne cesse de revenir à la télévision dans ses œuvres, tel un homme magnétisé par un serpent dont il sait que la morsure lui sera fatale. Pour une raison qui m'échappe, la longue introduction de son recueil « Hitler peignait des roses », un livre sur lequel nous reviendrons dans le chapitre suivant, est une diatribe contre la télé, intitulée « Enfin révélé, ce qui a tué les dinosaures ». Et ça n'a pas l'air d'aller très fort, vous non plus. Résumée à ses idées force, la thèse ellisonienne apparaît toute simple et guère originale. Pour l'originalité, reportez-vous à son style. « La télé pourrit tout », affirme Ellison. « Elle pourrit les histoires. Elle pourrit ceux qui les racontent. Et elle finit par pourrir ceux qui les regardent. Le lait qui coule de ce téton est un lait empoisonné. » Voilà une thèse qui ne souffre aucune contestation de ma part, mais permettez-moi de souligner 2 faits. Harlan a une télé. Une grande télé. J'ai une télé encore plus grande que la sienne. En fait, c'est une Panasonic CinemaVision qui domine tout un coin de ma salle de séjour. Mais à coup pas, d'accord. Je n'ai aucun mal à expliquer la présence d'une télé chez Harlan et chez moi, même s'il m'est impossible de l'excuser. Et je me dois d'ajouter que Harlan est célibataire et qu'il peut regarder cette abomination 20 heures par jour, si ça lui chante, sans déranger personne. En ce qui me concerne, ma maison abrite 3 enfants, âgés de 4, 8 et 10 ans, qui sont exposés à ce gadget diabolique, aux radiations et aux couleurs artificielles de cette étrange lucarne donnant sur un univers racoleur où la caméra reluque le postérieur des modèles de Playboy quand elle ne s'attarde pas avec amour sur une vision matérialiste des classes supérieures, totalement étrangère à l'expérience de l'Américain moyen. La famine est devenue un mode de vie au Biafra. Au Cambodge, des enfants mourants défèquent leurs intestins atrophiés. Au Proche-Orient, une variété de folies messianiques menace d'anéantir toute forme de raison. Et ici, en Amérique, nous sommes fascinés par Richard Dawson, le présentateur de Family Feud, et par Buddy Ebsen dans le rôle de Barnaby Jones. J'ai parfois l'impression que mes 3 gamins en savent davantage sur Gilligan, le capitaine et Mr. Howell que sur l'incident de Three Mile Island. En fait, j'en suis convaincu. L'horreur n'a guère connu de succès à la télé, si l'on excepte le journal du soir ou des films nous montrant des GI aux jambes arrachées, des villages et des enfants en flammes, des cadavres entassés dans des fosses communes et des portions de jungle saturées d'agents orange ont poussé les jeunes de ce pays à descendre dans les rues, à allumer des bougies et à entonner des chants pacifistes jusqu'à ce que nos boys quittent le Vietnam, laissant la place au nord vietnamien et à une nouvelle série de famines à grande échelle, sans oublier des champions de l'humanitaire comme ce vieux Pol Pot. Cette triste saga n'avait pas grand-chose à voir avec une série télé, pas vrai ? À votre avis, aurait-on assisté à de telles stupidités dans un épisode de Hawaii Police d'État? Bien sûr que non. Si Steve McGarrett avait été président des États-Unis entre 1968 et 1976, on aurait évité cette débâcle. Steve, Danny et Chin Ho auraient eu vite fait de remettre de l'ordre en Indochine. Les horreurs que nous abordons dans cet ouvrage se caractérisent avant tout par leur irréalité. Un fait dont Harlan Ellison lui-même est conscient. Il refuse que le contenu de ses livres soit décrit par l'étiquette fantastique. Nous avons déjà traité la question suivante. Pourquoi écrire des histoires d'horreur dans un monde déjà peuplé d'horreurs réelles? Si l'horreur n'a guère connu la réussite à la télévision, c'est à mon avis à cause d'une constatation fort proche de cette question. Il est difficile de concevoir une bonne histoire d'horreur dans un monde déjà peuplé d'horreurs réelles. Un spectre rôdant dans la tour d'un manoir écossais ne tient pas la route face à des missiles de plusieurs milliers de mégatonnes, à des armes bactériologiques ou à des centrales nucléaires apparemment construites par des gamins de 10 ans médiocrement doués pour le mécano. Même ce bon vieux Leatherface, le héros de Massacre à la tronçonneuse, pâlit à côté de ces troupeaux de moutons de l'Utah tués par un de nos meilleurs gaz de combat. Si le vent avait soufflé dans une autre direction lorsque la fuite s'est produite, les citoyens de Salt Lake City seraient aussi raides que ces pauvres moutons. Et laissez-moi vous le dire, mes chers amis, un jour ou l'autre, le vent soufflera dans la bonne direction. Vous pouvez me croire. Transmettez le message à votre député. Le vent finit toujours par tourner. Quoi qu'il en soit, l'horreur télévisuelle est possible. Il existe des créateurs suffisamment passionnés pour susciter cette émotion chez le spectateur. Et il est plutôt réconfortant de constater que nos semblables, pourtant exposés à toutes les horreurs de ce bas monde, peuvent encore pousser des cris d'effroi devant des spectacles foncièrement impossibles. Un scénariste et un metteur en scène peuvent parvenir à ce résultat, à condition qu'ils aient les mains libres. Si l'écrivain souffre de travailler pour la télévision, c'est parce qu'elle lui interdit de faire usage de son potentiel. À cet égard, le scénariste de télévision est victime d'un sort étrangement semblable à celui que Kurt Vonnegut Jr. réserve à l'humanité tout entière dans sa nouvelle « Pauvre surhomme ». Les gens les plus intelligents sont coiffés d'une casquette, leur dispensant périodiquement des électrochocs. Les plus agiles doivent porter des poids. Les artistes se voient affublés de lunettes dont les verres affectent leur perception de la réalité. L'espèce humaine vit désormais dans un état de parfaite égalité, mais à quel prix? Le scénariste de télé idéal est un mec ou une nana doué d'une parcelle de talent, d'un culot monstre et de l'âme d'un robot. Dans le jargon hollywoodien, qui peut être d'une exquise vulgarité, il ou elle doit fournir de bonnes réunions. Si l'une de ces qualifications vient à lui manquer, le scénariste risque de se retrouver dans le même état d'esprit que le pauvre surhomme de Vonnegut. C'est pour cette raison, à mon avis, que Harlan Ellison, qui a notamment écrit des scripts pour Star Trek, Au-delà du réel et The Young Lawyers, est devenu un peu cinglé. Mais s'il ne l'était pas, il serait impossible de le respecter. Sa folie est assimilable à une médaille, tout comme les ulcères de Joseph Wambaugh, créateur de la série Police Story. Rien n'empêche un écrivain de gagner son pain quotidien grâce à la télé. Il lui suffit d'avoir des ondes alpha de faible amplitude et de considérer l'écriture comme l'équivalent mental du travail de manutentionnaire. Cette situation résulte en partie des règlements fédéraux et en partie du célèbre adage qui veut que le pouvoir corrompe et que le pouvoir absolu corrompe absolument. La quasi-totalité des foyers américains est équipée d'un poste de télé, et les enjeux financiers sont considérables. En conséquence, la télévision est devenue de plus en plus prudente au fil des ans. Un peu comme un vieux matou castré, soucieux de préserver le statu quo, et de déplaire au minimum de gens possible. En fait, la télévision est comparable à une figure de notre enfance. Le gros lard un peu trouillard qui éclatait en sanglots dès qu'on le bousculait un peu, qui prenait toujours un air coupable quand l'institutrice demandait qui avait planqué un cadavre de souris dans le tiroir de son bureau. Ce gamin géniard qui était toujours la cible préférée des brutes, précisément parce qu'il avait toujours peur de subir leurs attaques. Quel que soit le média que l'on considère, le principe même de l'horreur, sa pierre de touche si vous voulez, est le suivant. Il faut faire peur au public. Tôt ou tard, on doit enfiler son masque de monstre et faire beau. Je me rappelle le commentaire d'un officiel des New York Mets à propos des supporters de son équipe de joyeux lurons. Un de ces jours, il faudra qu'on leur donne à manger la viande dont on leur fait sentir le fumet. La même remarque s'applique à l'horreur. Le public ne se contente pas indéfiniment d'allusions et de sous-entendus. Le grand Lovecraft lui-même était souvent obligé de montrer ce qui était tapis dans la crypte ou dans le clocher. La plupart des grands cinéastes œuvrant dans le genre optent pour l'attaque frontale. Ils enfournent une large dose d'horreur dans la gorge du spectateur jusqu'à ce que celui-ci manque de s'étouffer, puis entreprennent de titiller son imagination, retirant tous les dividendes psychologiques de ce premier accès de frayeur. L'exemple le plus significatif que l'on pourrait proposer à l'édification des aspirants cinéastes serait bien entendu Psychose d'Alfred Hitchcock, sans doute le plus important des films d'horreur sortis durant la période qui nous intéresse. Le minimum de sang et le maximum de terreur. Que voyons-nous dans la célèbre scène de la douche? Nous voyons Janet Leigh, nous voyons le couteau. Mais nous ne voyons jamais le couteau se planter dans Janet Leigh. Si vous pensez l'avoir vu, vous vous trompez. C'est votre imagination qui l'a vu. Et là réside le triomphe de Hitchcock. Nous ne voyons le sang que lorsqu'il coule dans le conduit d'évacuation. Psychose n'a jamais été diffusée à la télé à une heure de grande écoute. Mais si on en ôtait les 45 secondes que dure cette scène, ce film pourrait passer pour un téléfilm. En termes de contenu, bien entendu. Son style le hausse à 100 coudées au-dessus du téléfilm moyen. En fait, Hitchcock nous sert une bonne tranche de viande alors que son film a à peine entamé son deuxième quart. Ensuite, nous n'avons plus droit qu'au fumet. Et si on le prive de ces 45 secondes cruciales, le film devient complètement banal. En dépit de sa réputation, Psychose est une œuvre d'une retenue admirable. Hitchcock a même décidé de tourner son film en noir et blanc afin que le sang aperçu lors de la scène de la douche ne ressemble pas à du sang. Et à en croire une rumeur, presque certainement apocryphe, il avait envisagé de le tourner en couleur, à l'exception de cette fameuse scène qui aurait été filmée en noir et blanc. Au moment d'aborder ce chapitre sur l'horreur télévisuelle, il convient de ne pas oublier ce fait. La télévision a demandé l'impossible à ses séries et à ses dramatiques d'horreur. Terrifier sans terrifier, horrifier sans horrifier, vendre aux spectateurs le fumet sans la viande. J'ai dit plus haut que je pouvais expliquer, sinon excuser, la présence d'un poste de télé chez Ellison et chez moi. Et cette explication nous ramène à notre chapitre sur les films nuls. Bien entendu, la télé est un média trop homogénéisé pour produire des nanars aussi attendrissants que l'invasion des araignées géantes et sa Volkswagen couverte de peau d'ours, mais il arrive parfois que le talent s'y manifeste et qu'on y voit des œuvres intéressantes. Et même si celles-ci ne sont pas parfaites, à l'instar de Duel de Spielberg ou du Meurtre au 43e étage de John Carpenter, le téléspectateur y trouve au moins des raisons d'espérer. Quand il s'agit de son genre d'élection, le fan de fantastique a des réflexes d'enfant plutôt que d'adulte, et il ne renonce jamais à l'espoir. Il allume sa télé, il sait qu'il va sans doute voir un navet, mais il espère quand même, contre toute raison, qu'il va voir un chef-d'œuvre. L'excellence est une denrée fort rare sur le petit écran, mais celui-ci nous dispense de temps en temps des productions de qualité. La dernière que j'ai eu l'occasion de découvrir était un téléfilm intitulé « Le cauchemar aux yeux verts »« The Aliens Are Coming » de Harvest Heart et diffusé par NBC en 1979. C'est ainsi que la flamme de l'espoir est entretenue. Et, armé de cet espoir pour nous protéger des hordes de nullité, explorons à présent l'univers de la télévision. Mais je vous conseille de fermer les yeux si notre danse vous amène trop près du tube cathodique. Celui-ci a la mauvaise habitude d'hypnotiser ses proies pour mieux les anesthésier ensuite. Demandez donc à Harlan. 2. La meilleure série télé d'horreur de tous les temps est probablement Thriller, qui fut diffusée sur NBC de septembre 1960 à l'été 1962, soit en tout deux saisons plus quelques rediffusions. À cette époque, les adversaires de la violence à l'écran ne se manifestaient pas encore. Ils commenceront à se faire entendre après l'assassinat de John Kennedy, accentuant leurs critiques après ceux de Robert Kennedy et de Martin Luther King, transformant finalement la télé en un catalogue de sitcoms sirupeuses. L'histoire ne retiendra rien des dernières paroles de la télévision de qualité, car elles ont été étouffées par des rires préenregistrés. Les contemporains de Thriller étaient également des bains de sang hebdomadaires. C'était l'âge d'or des Incorruptibles, 1959-1963, où l'impavide Elliot Ness, Robert Stack, présidait au massacre d'innombrables gangsters. De Peter Gunn, 1958-1961, et de Kane's Hundred, 1961-1962, pour n'en citer que quelques-uns. La violence triomphait sur le petit écran. Si bien que Thriller, après 13 épisodes un peu faibles, cessa d'être un succès d'année de Alfred Hitchcock présente. Ses premiers épisodes étaient consacrés à des maris infidèles tentant de pousser leurs épouses au suicide, à des neveux criblés de dettes, cherchant à empoisonner leur vieille tante à héritage, et autres sujets rebattus, pour acquérir sa propre personnalité. Durant une brève période, que je situerai entre janvier 1961 et avril 1962, soit 56 épisodes sur un total de 78, ce fut une série unique en son genre dans l'histoire de la télévision. Thriller était une anthologie. Comme toutes les séries télé dévolues au fantastique, ayant connu un tant soit peu de réussite, présentée par Boris Karloff. Celui-ci était déjà apparu sur le petit écran, peu de temps après qu'Universal eut décidé d'exploiter, à des fins comiques, ces grands monstres des années 1930. Ça se passait à l'automne 1949 sur le réseau ABC, alors à peine lancé. La série, intitulée à l'origine « Starring Boris Karloff », ne connut pas les faveurs du public et passa à la trappe, après avoir été rebaptisé un temps « Mystery Playhouse Starring Boris Karloff ». Elle présentait cependant d'étonnantes ressemblances avec Thriller, qui ne devait occuper le petit écran que 11 ans plus tard. Voici le résumé d'un des épisodes de « Starring Boris Karloff ». Il aurait tout aussi bien pu être diffusé dans le cadre de Thriller. Ce bourreau anglais adore son métier, qui lui rapporte 5 guinées par pendaison. Il jouit d'entendre se briser le cou de sa victime, de voir ses bras pendre dans le vide. Lorsque son épouse, enceinte de quelques mois, découvre sa véritable profession, elle s'empresse de le quitter. 20 ans plus tard, le bourreau doit exécuter un jeune homme, une tâche dont il s'acquitte avec joie, bien qu'il ait la preuve de son innocence. Puis son ex-épouse refait son apparition pour lui apprendre qu'il vient de tuer son propre fils. Il l'étrangle dans un accès de rage, et c'est à son tour de se faire passer la corde au cou. Un nouveau bourreau empoche les 5 guinées d'or. Ce synopsis ressemble étrangement à celui d'un épisode de la seconde saison de Thriller. Dans celui-ci, le bourreau était français, travaillait à la guillotine plutôt qu'au gibet, et il nous était présenté comme un personnage sympathique. Remarquons toutefois que sa profession ne lui avait pas coupé l'appétit. C'était un véritable bibendum. L'histoire commence alors que notre héros doit exécuter un assassin particulièrement sanguinaire. Mais celui-ci n'a pas perdu tout espoir. Sa petite copine est parvenue à se lier d'amitié avec le bourreau solitaire, et nos deux lascars comptent bien tirer parti d'un vieux texte de loi, et je dois avouer que j'ignore si celui-ci est authentique, à la façon de cette loi américaine qui veut qu'un accusé ne puisse pas être jugé 2 fois pour le même crime, ou s'il n'est que le fruit de l'imagination de William Irish, l'auteur de l'histoire ici adaptée, lequel stipule que si le bourreau vient à décéder le jour de l'exécution, le condamné est libéré et absous de ses crimes. La petite copine de l'assassin sert au bourreau un copieux petit déjeuner dûment empoisonné. Comme à son habitude, il mange de bon appétit, puis s'en va d'un pas allègre rejoindre la prison. Il est arrivé à mi-chemin lorsque la souffrance commence à le tarauder. Suit alors un suspense quasi insoutenable, où alternent des plans de la cellule du condamné et des rues de Paris où le bourreau avance d'un pas de moins en moins assuré. Notre héros, dont la conscience professionnelle apparaît comme digne d'éloge, est résolu à accomplir son devoir. Il entre dans la prison, s'effondre au milieu de la cour, puis se met à ramper vers la guillotine. Le prisonnier apparaît, vêtu comme de bien entendu d'une chemise blanche au col largement ouvert. Le scénariste avait sûrement relu un conte de Deville, et les deux protagonistes atteignent la guillotine au même instant. Bien qu'il soit à bout de force, le bourreau réussit néanmoins à installer le prisonnier sur la guillotine, la tête au-dessus du panier, puis il s'effondre, raide mort. L'assassin, immobilisé dans une position rappelant celle d'un dindon qui se serait coincé la tête dans une clôture, se met à hurler « Libre ! Je suis libre, vous entendez ? Ha 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 !» Le médecin qui devait constater son décès se voit obligé de constater celui du bourreau. Il lui tâte le pouls, vérifie que son cœur a cessé de battre, mais lorsqu'il lui lâche le poignet, celui-ci tombe sur le levier de la guillotine. La lame descend en sifflant. Tchac ! Justice est faite. Fin. Karloff avait 64 ans à la création de Thriller, et sa santé n'était guère brillante. Un mal de dos chronique l'obligeait à porter des poids pour se tenir droit. Certaines de ses infirmités remontaient à 1932, année où il avait interprété pour la première fois le monstre de Frankenstein. Il n'était plus en mesure de présenter tous les épisodes. Nombre de ses remplaçants étaient d'illustres inconnus, qui ont depuis sombré dans une totale obscurité. Parmi eux figurait Reginalder, qui a par la suite interprété Barlow dans Les Vampires de Salem. Mais quelques-unes de ses apparitions sont restées dans les mémoires. The Strange Door, par exemple. La magie opérait encore. Le talent était resté intact. Lugosi a peut-être achevé sa carrière dans la misère et la pauvreté, mais Karloff, abstraction faite de quelques faux pas comme Frankenstein 1970, est mort comme il a vécu, en gentleman. Thriller, produit par William Fry, fut la première série télévisée à découvrir et à exploiter cette mine d'or qu'est la revue Weird Tales, laquelle n'avait échappé à l'oubli que grâce aux fans du genre, à quelques livres de poche éphémères et, bien entendu, grâce aux éditions à tirage limité d'Arkham House. Si Thriller a acquis une telle importance aux yeux des fans d'horreur, c'est en partie parce que ses scénaristes se sont de plus en plus inspirés des écrivains, figurant au sommaire de ce qu'on appelle les « shudder pulps ». Des écrivains qui, durant les années 1920, 1930 et 1940, avaient fait sortir l'horreur du boudoir hanté de l'époque victorienne où elle était confinée, pour la conduire vers la modernité, qui est aujourd'hui la sienne. Robert Bloch était ainsi représenté par la maison affamée, où les miroirs d'une antique demeure abritent un sinistre secret. Robert E. Howard, par Les Pigeons de l'Enfer, une des meilleures nouvelles d'horreur de ce siècle et un des épisodes préférés des fidèles de Thriller. Parmi les autres, il faut citer A Wig for Miss Devore, où une perruque rousse permet à une actrice de rester éternellement jeune jusqu'aux 5 dernières minutes de l'épisode où elle perd sa perruque et tout le reste. Le visage ridé et flétri de Miss Devore, le jeune homme descendant lentement le perron de la maison en ruine, une hache plantée dans le crâne, les pigeons de l'enfer, le type qui voit ses semblables se transformer en monstres quand il chausse une paire de lunettes un peu spéciales, The Cheaters, encore une adaptation de Robert Bloch, ce n'était peut-être pas du grand art, mais le fan d'horreur trouvait fréquemment dans Thriller les qualités qu'il prisait entre toutes. Des histoires bien construites, dont le but avoué était de le terrifier. Bien des années après, une compagnie de production associée à la chaîne NBC, celle-là même qui diffusait Thriller, a pris une option sur 3 nouvelles figurant au sommaire de mon recueil Danse macabre et m'a invité à les adapter pour le petit écran. Parmi ces 3 textes, il y avait Le printemps des baies, L'histoire d'un Jack l'éventreur moderne sévissant dans un campus en proie au brouillard. Un mois après avoir livré mon scénario, j'ai reçu un coup de fil émanant d'un bureaucrate de NBC affecté à la commission de contrôle. IE, le comité de censure. Mon tueur ne pouvait pas se servir d'un couteau pour commettre ses crimes. Le tueur pouvait rester, mais le couteau devait partir. Le couteau est un symbole phallique. J'ai proposé de transformer mon tueur en étrangleur. Enthousiasme du bureaucrate. J'ai raccroché en me félicitant intérieurement de mon intelligence et j'ai réécrit mon script. Mais en fin de compte, celui-ci a été rejeté par la commission de contrôle, couteau ou pas couteau. Verdict, trop terrifiant et trop intense. Apparemment, tout le personnel de NBC avait oublié Patricia Barry dans A Week for Miss Devore. 3. Écran noir. Puis apparaît une image, un genre d'image, mais elle tourne sur elle-même et perd sa définition horizontale. Puis l'écran redevient noir, se barre d'une ligne sinueuse aux oscillations hypnotiques. La voix qui accompagne ces visions est posée, pondérée. « Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. Ne cherchez donc pas à régler l'image. » Nous avons le contrôle total de l'émission, contrôle du balayage horizontal, contrôle du balayage vertical. Nous pouvons aussi bien vous donner une image floue qu'une image pure comme le cristal. Pour l'heure qui vient, asseyez-vous tranquillement. Nous contrôlerons tout ce que vous verrez et entendrez. Censé relever de la science-fiction, mais ressortissant davantage à l'horreur, Au-delà du réel fut sans doute la meilleure série télévisée du genre après Thriller. Les puristes vont sans doute hurler au blasphème et me rétorquer qu'Au-delà du réel n'arrivait pas à la cheville de l'immortelle quatrième dimension. Que la quatrième dimension soit immortelle, je n'en disconviens pas. Dans les grandes villes comme New York, Chicago, Los Angeles et San Francisco, cette série semble être diffusée en permanence, dans les siècles des siècles. Amen. Coincée pour l'éternité entre le journal de nuit et le PTL Club. Seuls des sitcoms antiques comme L'extravagante Lucy et My Little Margie ont accédé, à l'instar de la quatrième dimension, à cette existence vampirique en noir et blanc que confère la rediffusion sur les chaînes locales. Mais si l'on accepte une douzaine d'épisodes mémorables, la quatrième dimension n'avait pas grand rapport avec le style d'horreur qui nous intéresse. C'était une série qui se spécialisait dans les contes moraux, le plus souvent flagorneurs. Voir l'épisode où Barry Morse achète un piano mécanique grâce auquel ses invités avouent leurs défauts les plus criants. Lorsqu'arrive la fin, c'est lui qui finit par admettre qu'il n'est qu'un sale égoïste. Généralement sincère, mais simpliste et péniblement ringard. Voir l'épisode où le soleil refuse de se lever parce que l'atmosphère d'injustice est devenue bien trop noire, mes amis, bien trop noire. Le speaker de la radio rapporte que le ciel est particulièrement noir au-dessus de Dallas et de Selma, dans l'Alabama. Vous avez bien compris le message caché. La quatrième dimension offrait également aux téléspectateurs des variations sentimentales sur des thèmes surnaturels plutôt éculés. Art Carney découvre qu'il est bel et bien le Père Noël. Un banlieusard harassé, James Daly, trouve la paix dans un village idyllique du nom de Willoughby. La quatrième dimension adoptait parfois le registre de l'horreur. Ses meilleures réussites dans le domaine sont restées mémorables, et nous y reviendrons avant la fin de ce chapitre sur le petit écran. Mais pour la qualité du concept et de l'exécution, la quatrième dimension était enfoncée sans problème par Au-delà du réel, qui fut diffusée de septembre 1963 à janvier 1965. Le producteur exécutif de cette série s'appelait Leslie Stevens. Son directeur d'écriture n'était autre que Joseph Stefano, qui avait écrit le scénario de Psychose et, 2 ans plus tard, celui d'un brillant exercice de terreur intitulé « Les griffes de la peur ». Stefano avait une vision extrêmement claire de la nature de la série. « Chaque épisode, déclarait-il, devait comporter un ours ». À savoir une créature monstrueuse qui faisait son apparition avant la fin de la première demi-heure, moment correspondant au décrochage des stations locales. Dans certains cas, l'ours en question n'était ni dangereux ni maléfique, mais on était sûr qu'une influence extérieure, en général un savant fou, l'entraînerait à commettre des dégâts avant la fin de l'épisode. Mon ours préféré sortait littéralement des boiseries. Comme l'annonçait le titre de l'épisode, « It crawled out of the woodwork », pour se retrouver aspiré par l'aspirateur d'une ménagère, où il se mettait à grossir, à grossir, à grossir. Il y avait aussi ce mineur gallois, interprété par David McCallum, qui subissait une évolution forcée de 2 millions d'années. À l'issue de l'expérience, il se voyait affublé d'un crâne démesuré et d'un visage nauséeux, et semait la panique dans le quartier. Harry Guardino, quant à lui, était menacé par une énorme « créature des glaces » dans un épisode écrit par Jerry Saule, un romancier de science-fiction dont l'œuvre la plus connue est sans doute l'invention du professeur Costigan. Les premiers hommes sur Mars étaient attaqués par un gigantesque serpent des sables. Dans le pilote de la série « Ne quittez pas l'écoute », une créature d'énergie pure était accidentellement absorbée par un radiotélescope terrestre et on réussissait à l'éliminer en la gavant de transmission. Ce qui me rappelle bigrement le monstre magnétique, un vieux nanar interprété par Richard Carlson. Harlan Ellison a écrit le scénario de 2 épisodes, Soldier et La main de verre. Ce dernier étant considéré comme le meilleur de la série, notamment par les rédacteurs de The Science Fiction Encyclopedia. Parmi les autres scénaristes figurait Joseph Stefano lui-même et un jeune homme du nom de Robert Towne qui devait plus tard écrire le scénario de Chinatown. La disparition d'au-delà du réel s'explique par la stupidité des dirigeants de la chaîne ABC, plutôt que par un manque d'intérêt du public, bien que la série soit devenue plutôt mollassonne lors de sa seconde saison, après le départ de Stefano. À cet égard, on pourrait dire que lorsqu'il est parti, Stefano a emporté les meilleurs ours dans ses bagages. Au-delà du réel ne fut plus jamais la même. Certes, nombre de séries mollassonnes ont réussi à survivre. La télé est après tout un univers peuplé de ventres mous. Mais lorsque ABC a modifié la tranche horaire d'Au-delà du réel, la faisant passer du lundi soir, où la série n'était concurrencée que par 2 émissions-jeux en perte de vitesse, au samedi soir, c'est-à-dire à 1 heure d'écoute où les adolescents, qui formaient le gros de son public, étaient soit au ciné, soit en train de draguer, elle a disparu sans faire de bruit. Nous avons déjà évoqué le phénomène de la rediffusion. Mais la 4e dimension, où les épisodes violents étaient des plus rares, est la seule série fantastique à être régulièrement rediffusée par les chaînes locales. On a parfois la chance de revoir Thriller dans les métropoles où les chaînes indépendantes la diffusent en général pendant la nuit. Mais Au-delà du réel est moins bien loti. Bien que cette série ait été présentée, lors de sa première saison, à une heure que l'on considère aujourd'hui comme familiale, l'évolution des mœurs a fait d'elle une série à risque, et les petites chaînes préfèrent diffuser des sitcoms, des jeux ou des films, sans parler de cette institution américaine qu'est le prêche des ondes. « Posez vos mains sur votre poste de télévision, mes bien chers frères, et vous serez guéris. » Au fait, si Au-delà du réel passe dans votre coin, branchez votre magnétoscope et faites-moi parvenir la liste des épisodes que vous avez enregistrés. Réflexion faite, ne vous dérangez pas. C'est sans doute illégal. Mais bichonnez bien votre collection de cassettes si vous en avez une. Tout comme Thriller, Au-delà du réel appartient désormais au passé. Même The Wonderful World of Disney va disparaître des écrans après 26 ans de carrière. 4. N'allons pas jusqu'à dire du sublime au ridicule, car la télé n'atteint que rarement le sublime et la série télé n'y parvient jamais. Disons donc du passable à l'atroce. Dossier brûlant. J'ai écrit un peu plus haut que la télévision était trop homogénéisée pour produire des nanars attendrissants. Dossier brûlant est l'exception qui confirme la règle. Ce jugement ne s'applique pas à The Night Stalker, le pilote de la série. Celui-ci est un des meilleurs téléfilms jamais tournés. Il est inspiré d'un roman d'horreur d'une nullité confondante, « Nuit de terreur » de Jeff Rice, lequel fut publié directement en format de poche après que le manuscrit inédit eut atterri sur le bureau de Dan Curtis, qui en acheta aussitôt les droits. Une petite digression, si vous le permettez. Dan Curtis commença à être associé à l'horreur en produisant une série qui est sans doute le soap-opéra le plus étrange jamais diffusé. Je veux parler de Dark Shadows. Cette série connut un succès sans précédent lors des deux dernières années de sa carrière. Conçue à l'origine comme une saga gothico-sentimentale, genre fort populaire à l'époque auprès des lectrices, celles-ci se sont tournées depuis vers les romans d'amour pimentés de violence, comme en produisent Rosemary Rogers, Kathleen Woody-Wiss et Laurie McBain, elle évolua au fil des épisodes pour devenir quelque chose de tout à fait bizarre. Sous l'impulsion inspirée de Curtis, Dark Shadows se transforma en une sorte de tea party surnaturelle. Elle était d'ailleurs diffusée à l'heure du thé, 4 heures de l'après-midi. Et les spectateurs y découvraient avec fascination une vision tragicomique de l'enfer. Un peu comme une adaptation de La Divine Comédie sur un fond musical signé Spike Jones. Barnabas Collins, un des membres de la famille autour de laquelle tournaient les scénarios, était un vampire. Jonathan Frid, l'acteur qui lui prêtait ses traits, devint célèbre du jour au lendemain. Malheureusement, sa célébrité s'avéra aussi éphémère que celle de Vaughn Meader. Et si vous avez oublié qui était Vaughn Meader, envoyez-moi une enveloppe timbrée portant vos noms et adresses, j'éclairerai votre lanterne. Chaque fois que commençait un nouvel épisode de Dark Shadows, le spectateur était persuadé qu'il ne pouvait pas être plus dingue que le précédent. Et il se trompait. À un moment donné, tous les personnages se retrouvaient transportés par magie au XVIIe siècle et y passaient 6 semaines dans une ambiance de bal costumé. Un des cousins de Barnabas était un loup-garou. Une de ses cousines était une sorcière doublée d'un succube. Tous les soap-opéras, bien entendu, emploient régulièrement des procédés déments de ce genre. Celui que je préfère entre tous est le coup du gamin. Voici comment ça fonctionne. Un des personnages accouche en mars. En juillet, le bébé a atteint l'âge de 2 ans. En novembre, il en a 6. Lorsque vient le mois de février, il gît sur un lit d'hôpital plongé dans le coma après avoir été renversé par un chauffard sur le chemin du collège. Et dès le mois suivant, donc 1 an après sa naissance, il a atteint sa majorité et se prépare à participer activement aux réjouissances, soit en engrossant la fille des voisins, soit en tentant de se suicider, soit en annonçant son homosexualité à ses parents horrifiés. Le coup du gamin est digne d'une nouvelle de Robert Sheckley. Mais au moins la plupart des personnages de soap-opéra consentent-ils à rester morts après qu'on a débranché leurs appareils de survie. Suit en général un procès de 4 mois qui relance le débat sur l'euthanasie. Les acteurs et les actrices qui ont ainsi péri encaissent leur chèque et partent en quête de nouveaux rôles. Pas avec Dark Shadows. Quand un personnage venait à mourir, son fantôme le remplaçait aussitôt. C'était encore plus fort que le coup du gamin. Dan Curtis a produit 2 films inspirés de cette série en reprenant ses principaux personnages. Un tel passage du petit au grand écran n'est pas sans précédent, voire The Lone Ranger. Mais c'est un phénomène plutôt rare. Et ces 2 films, même si ce ne sont pas des chefs-d'œuvre, sont agréables à regarder. On y trouve en abondance du style, de l'esprit et tout le sang que Curtis ne pouvait pas verser sur le petit écran. On y trouve aussi une énergie formidable. Et c'est grâce à cette énergie que The Night Stalker a battu un record d'audience le soir de sa diffusion. Depuis, ce record est tombé 8 ou 9 fois. Et parmi les téléfilms qui se sont révélés plus populaires que le pilote de Dossier Brûlant, figurait celui de Gasp, La Croisière s'amuse. Curtis lui-même est un homme remarquable, presque fascinant, amical en dépit d'une certaine brusquerie qui a tendance à s'accorder tout le mérite de ses succès, mais d'une façon si naturelle qu'elle en devient désarmante. À l'image des hardis pionniers de l'industrie hollywoodienne, il n'a apparemment aucune difficulté à juger les gens. S'il vous aime bien, il vous soutiendra contre vents et marées. S'il vous déteste, vous n'êtes à ses yeux qu'un pauvre type sans une once de talent. Cette expression m'a toujours enchanté, et je parie que Curtis va décrocher son téléphone pour me la servir si jamais il lit ses lignes. Son importance mérite d'être soulignée, ne serait-ce que parce qu'il est sans doute le seul producteur hollywoodien capable de concevoir une œuvre aussi terrifiante que The Night Stalker. Le scénario de ce téléfilm est dû à Richard Matheson, un écrivain qui est devenu le meilleur scénariste de télé depuis, disons, Reginald Rose. Par la suite, Curtis et Matheson devaient également collaborer, avec le soutien de William F. Nolan, sur un téléfilm qui est resté dans la mémoire des fans, Trilogy of Terror, interprété par Karen Black. Le meilleur des trois segments formant cette trilogie est sans doute le dernier, adapté d'une nouvelle de Matheson intitulée Gibier. Mrs. Black y interprète, avec maestria, une femme persécutée par une figurine diabolique armée d'une lance. 15 minutes de suspense et de terreur à l'état pur, qui résument à merveille ce que je pense de Dan Curtis. Il est doué d'un talent sans égal pour localiser vos points de pression phobiques et les empoigner de sa main glaciale. The Night Stalker raconte l'histoire d'un journaliste nommé Carl Kolchak et travaillant à Las Vegas. Tel que l'interprète Darren McGavin, dont le chapeau mou surmonte un visage à la fois cynique et émerveillé, vif et épuisé, Kolchak est un personnage des plus crédibles, plus proche de Lew Archer que de Clark Kent, et résolu avant tout à gagner sa croûte dans l'enfer du jeu. Il découvre une série de meurtres qui semblent avoir été commis par un vampire, et son enquête le plonge peu à peu dans le surnaturel, tandis qu'il entre en conflit avec les maîtres de Las Vegas. Finalement, il réussit à localiser la maison abandonnée qui sert de repère au vampire, et plante un pieu dans le cœur de celui-ci. La conclusion du récit est satisfaisante, en dépit d'un certain manque d'originalité. Kolchak se retrouve licencié et discrédité, rejeté par un pouvoir en place qui n'a que faire des vampires, ni dans sa philosophie, ni dans ses relations publiques. Kolchak a réussi à triompher du buveur de sang, Barry Atwater, mais ce sont les maîtres de Las Vegas qui ont le dernier mot. McGavin est un bon acteur, mais il a rarement été aussi bon, aussi crédible que dans The Night Stalker. C'est le sens pratique de son personnage qui nous permet de croire à celui du vampire. Si un type du genre de Carl Kolchak, à qui on ne la fait pas, pense que l'assassin est un vampire, nous en sommes aussi convaincus que lui. Le succès de The Night Stalker ne passa pas inaperçu auprès des dirigeants d'ABC, qui recherchaient désespérément des séries à succès en ce temps d'avant l'apparition de Mork, de Fonzie et de leurs émules. On décida donc de produire un second téléfilm intitulé The Night Strangler. Cette fois-ci, les meurtres étaient commis par un médecin qui avait découvert le secret de la vie éternelle. Celle-ci lui était acquise à condition qu'il tue 5 victimes tous les 5 ans pour renouveler son stock d'élixirs. Les médecins légistes de Seattle, ville où se situait l'action, avaient dissimulé un détail à leurs concitoyens. On avait retrouvé des lambeaux de chair humaine en voie de décomposition sur le cou des cadavres étranglés. Le bon docteur devenait un peu trop mûr lorsqu'approchait la fin de son cycle de 5 ans. Kolchak fait éclater la vérité et coince le monstre dans sa tanière. Celle-ci étant située dans le quartier secret de Seattle, une section souterraine de la vieille ville dont Matheson avait découvert l'existence en 1970 lors d'un voyage d'agrément. Bien entendu, Kolchak élimine sans problème le médecin zombifié. ABC décida de consacrer une série au personnage de Kolchak, et c'est ainsi que le premier épisode de Dossier brûlant fut diffusé le vendredi 13 septembre 1974. Ce fut une catastrophe, qui heureusement ne dura que l'espace d'une saison. Les problèmes firent leur apparition dès le début. Dan Curtis, à qui l'on pouvait raisonnablement attribuer le succès des 2 téléfilms, n'intervint pas dans la production de la série. Aucune des personnes que j'ai interrogées sur ce point n'a pu m'expliquer pourquoi. Matheson, qui avait écrit les scénarios de ces mêmes téléfilms, ne collabora pas une seule fois à la série. Paul Pladen, le producteur engagé à l'origine, démissionna avant la diffusion du premier épisode pour être remplacé par Cy Chermack. La plupart des réalisateurs étaient médiocres. Les effets spéciaux étaient carrément fauchés. Mon préféré parmi ceux-ci, qui n'est pas loin d'égaler la Volkswagen couverte de peau d'ours dans l'invasion des araignées géantes, figurait dans un épisode intitulé « Croque-mitaine ». Richard Keel, qui connaîtra plus tard une certaine notoriété en interprétant le personnage de Jaws dans les films de James Bond, s'y baladait dans les ruelles de Chicago, vêtu d'un costume de monstre des marais, à la fermeture éclair nettement visible. Mais le problème fondamental de Dossier brûlant est celui-là même qui se pose à toute série fantastique ne reposant pas sur le principe de l'anthologie. La difficulté croissante qu'a le spectateur à suspendre son incrédulité. On pouvait croire à Kolchak quand il traquait le vampire de Las Vegas. Avec un petit effort supplémentaire, on pouvait encore y croire quand il traquait le médecin zombie de Seattle. Mais ça devenait de plus en plus dur à chaque épisode de la série. Engagé pour écrire un reportage sur la dernière croisière d'un paquebot de luxe, Kolchak découvre qu'un des passagers est un loup-garou. Alors qu'il écrit un article sur un politicien lors de la campagne des sénatoriales, Kolchak découvre que le candidat a vendu son âme au diable. Ce qui ne me semble ni surnaturel ni extraordinaire, vu le scandale du Watergate et celui d'Abscam. Kolchak découvre également un reptile préhistorique dans les égouts de Chicago, la Sentinelle. Un succube, la terreur en héritage. Un sabbat de sorcières, la collection. Et, dans un des épisodes les plus répugnants jamais diffusés sur les chaînes nationales, un motard sans tête, à toute vitesse. Petit à petit, le spectateur ne parvenait plus à suspendre son incrédulité. Pas plus que les responsables de la série, apparemment, qui orientèrent peu à peu celle-ci vers le comique. En un sens, Dossier brûlant peut être qualifié de version accélérée du syndrome universel. De l'horreur à l'humour. Mais il a fallu 18 ans au monstre d'Universal pour passer d'un domaine à l'autre. Dossier brûlant a effectué la même trajectoire en 20 épisodes. Comme le souligne Bert Rugger, cette série a par la suite connu un bref succès lorsqu'elle était rediffusée par CBS dans le cadre d'un programme voué à la nostalgie. Rugger estime que ce succès s'explique par la qualité des épisodes et je suis en désaccord avec elle sur ce point. Si les spectateurs ont été nombreux, c'est à mon avis pour la même raison qui fait que des films comme « Touchez pas à la schnouf » font toujours sale comble. Je me suis déjà étendu sur la séduction de la nullité et nous revoilà en plein dedans. À mon avis, les téléspectateurs qui avaient vu par hasard un épisode de Dossier brûlant n'en ont pas cru leurs yeux et ils ont tenu à regarder les suivants pour vérifier qu'ils étaient aussi mauvais que le premier. Ils n'ont pas été déçus. Seul Voyage au fond des mers, le tremplin télévisuel qui a fait d'Irwin Allen le maître incontesté du film catastrophe, peut se prétendre l'égal de Dossier brûlant. Mais rappelons-nous que Seabury Queen, un habitué des sommaires de Weird Tales, ne s'est guère montré convaincant dans la série des aventures de Jules de Grandin, et Queen était pourtant un des meilleurs écrivains de l'ère des Pulps. Et pourtant, Dossier brûlant, que certains commentateurs avaient rebaptisé « Un monstre par semaine », occupe encore une place au fond de mon cœur. Une place minuscule, je le précise, et dans celui de tous les fans. Il y a quelque chose de simple et d'enfantin dans sa nullité même. 5. Nous sommes transportés dans une autre dimension, une dimension faite non seulement de paysages et de sons, mais aussi d'esprits. Un voyage dans une contrée sans fin dont les frontières sont notre imagination. Un voyage au bout des ténèbres où il n'y a qu'une destination, la quatrième dimension. C'est avec cette invocation plutôt mélodramatique, qui ne le semblait nullement grâce au ton mesuré et presque pragmatique de Rod Serling, que les téléspectateurs étaient invités à pénétrer dans un étrange univers infini, ce qu'ils firent sans problème. La chaîne CBS diffusa la quatrième dimension d'octobre 1959 à l'été 1965. De la torpeur de l'ère Eisenhower au début de l'escalade de la guerre du Vietnam, aux premiers étés chauds de l'Amérique et à l'avènement des Beatles. De toutes les séries dramatiques jamais diffusées sur une chaîne américaine, celle-ci est de loin la plus difficile à définir. Ce n'était ni un western ni un polar, même si certains de ces épisodes nous présentaient des cow-boys ou des flics. Ce n'était pas vraiment une série de science-fiction, même si The Complete Directory to Primetime Network TV Shows la classe dans cette catégorie. Ce n'était pas non plus une sitcom, même si certains de ses épisodes étaient comiques, ni une série dévolue à l'occultisme, même si certains scénarios faisaient appel à l'occulte d'une façon fort spéciale ou au surnaturel. La quatrième dimension était unique, et c'est sans doute pour cette raison que toute une génération associe la création de Serling à l'émergence des 60s, ou du moins aux souvenirs que l'on garde de cette décennie. Rod Serling, le créateur de la quatrième dimension, connut une certaine notoriété durant ce qu'il est convenu d'appeler l'âge d'or de la télévision. Bien que les tenants de cette dénomination, qui ont gardé un souvenir ému d'émissions telles que Studio One, Playhouse 90 et Climax, aient apparemment oublié l'existence de nullités comme Mr. Arsenic, Hands of Mystery, Doorway to Danger et Doodles Weaver, autant d'émissions contemporaines de celles citées plus haut, et à côté desquelles des shows d'aujourd'hui tels que Vegas et That's Incredible ont des allures de chef-d'œuvre. La télévision n'a jamais vraiment connu un âge d'or, rien que quelques saisons de bronze ne différant des autres que par la pureté de leur alloi. Quoi qu'il en soit, la télé est souvent sujette à des crises de qualité. Et trois des premières télépièces de Serling, Patterns, The Comedian et Requiem for Heavyweight, définissent ce que les nostalgiques appellent l'âge d'or de la télévision, bien que Serling n'ait pas été le seul responsable de celui-ci. Parmi les scénaristes qui ont contribué à la relative excellence de cette période, il faut citer Paddy Chayefsky, Marty, et Reginald Rose, 12 Angry Men. Serling, dont le père était boucher à Binghamton, État de New York, fut champion de boxe catégorie poids-mouche. Il mesurait environ 1,60 m et servit comme parachutiste durant la Seconde Guerre mondiale. Il commença à écrire, sans succès, durant ses études supérieures et continua, toujours sans succès, pour le compte d'une station de radio de Cincinnati. Cette expérience s'avéra des plus frustrantes, écrit Ed Nahad dans sa courte biographie de Serling. Ses personnages introspectifs étaient vivement critiqués par les responsables de la station, lesquels souhaitaient que leurs employés mordent la terre à belles dents. Serling déclara par la suite à propos de cette période « Ces types ne voulaient pas des écrivains, mais des charrues ». Serling démissionna et se mit à travailler en freelance. Le succès lui vint en 1955. Patterns, avec Van Heflin et Everett Sloan. Récit du chantage moral subi par un cadre supérieur suite à des magouilles d'entreprise. Cette télépièce valut à Serling de remporter son premier Emmy, et ne le quitta presque plus par la suite, même si ce succès demeura exclusivement lié à la télévision. Il rédigea le scénario de quelques films de cinéma. Le hold-up du siècle est sans doute le plus mauvais. La planète des singes et 7 jours en mai figurent parmi les meilleurs. Mais la télévision était son domaine, et il ne parvint pratiquement jamais à s'en affranchir, contrairement à Chayefsky, L'Hôpital, Network. C'était à la télé qu'il était le plus à l'aise. Et après un hiatus de 5 ans, faisant suite à la disparition de la quatrième dimension, il refit son apparition sur le petit écran, en tant que présentateur de Night Gallery. Serling lui-même était en proie à certains doutes quant à sa collaboration à ce média de la médiocrité. « Dieu m'est témoin, » déclare-t-il lors de son ultime interview, « quand j'examine d'un œil lucide mes 30 ans de carrière, j'ai du mal à trouver quoi que ce soit de vraiment important. Je vois certaines choses qui ont du style, d'autres qui ont un certain intérêt ou une certaine classe, mais très peu qui aient une importance quelconque. » Apparemment, Serling considérait la quatrième dimension comme une façon détournée d'exprimer ses idées après la disparition des dramatiques de prestige qui avaient marqué la fin des années 1950 et le début des années 1960. et sans doute a-t-il en partie réussi son coup. Grâce à l'alibi de la fiction fantastique, la quatrième dimension parvint à traiter des thèmes tels que le fascisme, Il est vivant, où Dennis Hopper interprétait un jeune néo-nazi guidé par le spectre d'Adolf Hitler, l'hystérie collective, les monstres de Maple Street, et même le cœur des ténèbres, tel que l'a défini Joseph Conrad. Rares sont les œuvres télévisuelles ayant présenté le genre humain sous un jour aussi sombre que l'a fait L'Abri, où le déclenchement d'une alerte pousse les citoyens d'une banlieue aisée typiquement américaine à s'entre-déchirer comme des bêtes pour pénétrer dans un abri anti-atomique. Certains épisodes de la quatrième dimension engendraient une forme de bizarrerie existentielle qu'aucune autre série n'est parvenue à reproduire. Voir par exemple « Question de temps », où Burgess Meredith interprète un employé de banque affligé de myopie et qui n'arrive jamais à trouver le temps de lire. D'ailleurs, s'il survit au cataclysme nucléaire, c'est parce qu'il s'était planqué dans un abri anti-atomique pour pouvoir bouquiner en paix. Meredith est enchanté de découvrir que la fin du monde est arrivée. Il va enfin avoir le temps de lire tout son sou. Malheureusement, il casse ses lunettes peu de temps après être arrivé à la bibliothèque. Parmi les règles de base de la quatrième dimension figurait apparemment la suivante. Une petite dose d'ironie n'a jamais fait de mal à personne. Si la quatrième dimension avait fait son apparition sur le petit écran durant la période 1976-1980, elle en aurait sûrement disparu au bout de 6 ou 9 épisodes. Son indice d'écoute était des plus bas, quasiment souterrain. ABC diffusait alors « The Detectives », une série policière fort populaire, interprétée par Robert Taylor, tandis que les téléspectateurs plébiscitaient « The Gillette Cavalcade of Sports » sur NBC, un show où on pouvait assister dans son fauteuil à des opérations de chirurgie esthétique improvisées sur des boxeurs tels que Carmen Basilio et Sugar Ray Robinson. Mais les responsables des chaînes ne réagissaient pas au quart de tour en cette ère bénie, et l'anarchie ne régnait pas encore dans la programmation. La première saison de la quatrième dimension consista en 36 épisodes d'une demi-heure, et l'indice d'écoute avait sensiblement progressé après la diffusion des 18 premiers, grâce au bouche à oreille et à d'excellentes critiques. Ces critiques convainquirent les dirigeants de CBS qu'ils avaient déniché un oiseau rare, à savoir un programme de prestige. Ce qui n'empêcha pas la série de connaître quelques difficultés. La quatrième dimension n'arrivait pas à se trouver un sponsor. Rappelez-vous que tout ceci se passait durant l'ère des dinosaures. Une ère où l'heure d'antenne était bon marché et où les entreprises pouvaient se permettre de financer un programme tout entier. Voir GE Theater, Alcoa Playhouse, The Voice of Firestone, The Lux Show, Coke Times et tant d'autres. À ma connaissance, Bonanza est le dernier programme à avoir été financé par un seul sponsor, à savoir General Motors. Et les pontes de CBS se sont rendus compte que Serling n'avait pas renoncé à ses idées, mais les faisait désormais passer par le biais du fantastique. Durant sa première saison, la quatrième dimension a notamment présenté La poursuite du rêve, la première contribution à la série du regretté Charles Beaumont, et troisième à partir du soleil, de Richard Matheson. Cet épisode repose sur un gimmick. Les protagonistes ne fuient pas la Terre, mais vers la Terre, qui est aujourd'hui devenu un cliché. On l'a retrouvé récemment dans Galactica, le navet de l'espace. Mais les téléspectateurs de l'époque ne devaient jamais oublier le choc qu'ils ont ressenti à la vision de sa chute finale. C'est au moment de sa diffusion que la série a commencé à recruter ses plus ardents fidèles. Voilà que la télé leur offrait quelque chose de nouveau et de différent. Durant sa troisième saison, la quatrième dimension fut soit supprimée, c'est la version de Serling, soit retirée de l'antenne pour des raisons de programmation, c'est la version de CBS. Quoi qu'il en soit, elle fit son retour l'année suivante sous la forme d'une série d'épisodes d'une heure. Dans son essai intitulé « Rod Serling's Dream », Edna a écrit « La principale conséquence de l'allongement des épisodes fut un sentiment de lassitude. Au bout de 13 épisodes à faible taux d'écoute, la quatrième dimension disparut des écrans. » Elle en disparut, en effet, pour y revenir l'espace d'une dernière saison bien terne, avec à nouveau des épisodes d'une demi-heure. Mais peut-on parler de lassitude? À mon sens, certains de ces épisodes d'une heure figurent parmi les meilleurs de la quatrième dimension. Il y a par exemple une tombe de 55 mètres de long, où l'équipage d'un cuirassé de la Navy entend des fantômes à l'intérieur d'un sous-marin coulé. Le journal du diable, la nouvelle exposition, une des rares incursions dans l'horreur pure de la quatrième dimension, où le gardien d'un musée de cire, interprété par Martin Balsam, découvre que les statues d'assassins sont douées de vie. Et Miniature, sur un scénario de Charles Beaumont, où Robert Duvall traverse les ans pour se réfugier dans la Belle Époque. Comme le fait remarquer Naha, lorsque vint la dernière saison, plus personne chez CBS ne s'intéressait à la série. Il ajoute que la chaîne ABC, qui connaissait un certain succès avec Au-delà du réel, proposa à Serling de produire une sixième saison sur son antenne. Serling refusa. « J'avais l'impression qu'ABC voulait me faire visiter le cimetière toutes les semaines », déclara-t-il. La vie ne fut plus jamais la même pour lui. Le jeune homme en colère qui avait écrit Patterns se mit à tourner des spots publicitaires. On entendit sa voix, si caractéristique, vanter des pneus et des remèdes contre la toux. Ce qui rappelait étrangement le boxeur déchu de Requiem for a Heavyweight, contraint de se livrer à des matchs de catch truqués. Et en 1970, il se mit à visiter le cimetière toutes les semaines, sur NBC plutôt que sur ABC, en tant que présentateur et scénariste occasionnel de Night Gallery. Cette série fut inévitablement comparée à la quatrième dimension, bien qu'elle n'ait été en fait qu'un ersatz de thriller où Serling remplaçait Boris Karloff. Serling ne disposait d'aucun droit de regard sur Night Gallery, contrairement à ce qui s'était passé avec la quatrième dimension. Il accusa les instances dirigeantes de NBC de vouloir faire de cette série un Manix en linceul. Night Gallery produisit néanmoins quelques excellents épisodes, parmi lesquels des adaptations d'Air froid et du Modèle de Pickman de H.P. Lovecraft, ainsi qu'un épisode qui est sûrement un des plus terrifiants téléfilms jamais tournés. Boomerang, d'après une histoire d'Oscar Cook, nous présentait une sinistre variété de perce-oreilles. Cette bestiole était introduite dans l'oreille du méchant et entreprenait, gasp, de lui ronger la cervelle, le plongeant dans d'atroces souffrances. Le cerveau étant dénué de terminaison nerveuse, on se perd en conjectures sur l'origine physiologique desdites souffrances. Son torsionnaire l'informe qu'il n'y a qu'une chance sur un milliard pour que l'insecte creuse un tunnel en ligne droite et ressorte par l'autre oreille. Plus probablement, il va lui ronger les cellules grises jusqu'à ce qu'il devienne fou, ou choisisse de se suicider. Le spectateur est cependant soulagé lorsque l'impossible se produit. Le perce-oreille ressortant effectivement du crâne du méchant par l'autre oreille. Et puis vient la chute. Ce spécimen était du sexe féminin. Et il a pondu des œufs, des milliers d'œufs. La plupart des épisodes de Night Gallery étaient nettement moins terrifiants, et la série disparut au bout de 3 ans d'existence en dents de scie. Ce fut la dernière heure de gloire de Serling. Le jour de son 40e anniversaire, écrit Naha, Serling effectua un saut en parachute pour la première fois depuis la Seconde Guerre mondiale. Pour quelle raison ? Je l'ai fait, déclara Serling, pour prouver que je n'étais pas vieux. Mais il avait l'air vieux. En comparant les photos prises lors du lancement de la quatrième dimension et celles prises sur le plateau de Night Gallery, où Serling commentait des peintures hideuses servant à annoncer chaque épisode, on constate des altérations quasiment choquantes. Le visage de Serling est ridé, son cou fripé. C'est le visage d'un homme partiellement attaqué par le vitriol de la télévision. En 1972, il accorda une interview dans son bureau, dont les murs étaient tapissés de critiques élogieuses consacrées à Patterns, Requiem for a Heavyweight et autres télépièces d'un autre âge. « Je viens parfois ici rien que pour les regarder », avoua-t-il. « Ça fait des années que je n'ai pas eu d'aussi bonnes critiques. Aujourd'hui, je sais pourquoi les gens gardent un dossier de presse. C'est pour se prouver que tout ça leur est vraiment arrivé. L'homme qui a sauté en parachute le jour de son 40e anniversaire, pour se prouver qu'il n'était pas vieux, se considère comme tel 9 ans plus tard, lorsqu'il accorde sa dernière interview à Linda Brevel, à La Taverna, le bar de Los Angeles où il avait ses habitudes. Brevel le décrit comme plein de vie et d'enthousiasme, mais il ne cesse de prononcer des propos inquiétants. « Je ne suis pas un vieillard, mais je ne suis plus un jeune homme », déclare-t-il à un moment donné. Et un peu plus tard, il affirme qu'il est un vieillard. Pourquoi n'a-t-il pas abandonné plus tôt cette course de stock-car qu'est la création télévisuelle? À la conclusion de Requiem for a Heavyweight, Jack Palance déclare qu'il doit remonter sur le ring, même si le combat est truqué, parce que le ring est la seule chose qu'il connaisse. Cette réponse en vaut bien une autre. Serling, un bourreau de travail qui fumait parfois 4 paquets de cigarettes par jour, fut frappé par une crise cardiaque en 1975 et décéda des suites d'une opération à cœur ouvert. Il nous a laissé quelques excellentes télépièces et La Quatrième Dimension, une série qui fait aujourd'hui partie des légendes de la télé, à l'instar du Fugitif et d'Au nom de la loi. Quel jugement pouvons-nous porter sur cette création vénérée par tant de personnes, dont la plupart n'étaient que des enfants quand elles l'ont vue pour la première fois? Je pense sincèrement qu'un tiers des épisodes étaient fichtrement bons, déclara Serling lors d'une interview. Un deuxième tiers était probablement passable. Le troisième tiers était franchement nul. En fait, c'est Serling lui-même qui a écrit 62 épisodes sur les 92 premiers, les tapant sur sa machine, les dictant à sa secrétaire ou à son dictaphone, tout en fumant cigarette sur cigarette. Les fans de Fantastique reconnaîtront sans peine la plupart des auteurs des 30 autres épisodes. Charles Beaumont, Richard Matheson, George Clayton Johnson, Earl Hamner Jr., Robert Presnell, E. Jack Newman, Montgomery Pittman et Ray Bradbury. Et, il faut bien l'avouer, la plupart des navets de La Quatrième Dimension sont imputables à Serling lui-même. Je pourrais citer en vrac La Seconde Chance, Du Succès au Déclin, La Nuit du Jugement, Le Vœu Magique, Une Histoire larmoyante à souhait, où un gamin aide un boxeur déchu à gagner son dernier match, et bien d'autres. Trop pour que j'aie le cœur d'en dresser une liste exhaustive. En outre, la nature de la nostalgie inspirée par La Quatrième Dimension m'a toujours semblé sujette à caution. La plupart de mes contemporains se souviennent surtout des chutes finales des épisodes, mais le succès de la série reposait davantage sur les concepts à la base de ceux-ci. Des concepts qui faisaient le lien entre les pulps d'avant les années 1950, ou les épisodes de thriller exploitant les ressources de ces pulps, et la nouvelle littérature d'horreur et de fantastique. Semaine après semaine, La Quatrième Dimension nous présentait des gens ordinaires placés dans des situations extraordinaires. Des gens qui avaient apparemment fait un faux pas et franchi une lézarde dans la réalité, se retrouvant ainsi dans La Quatrième Dimension imaginée par Serling. C'est là un concept des plus puissants, sans doute la route la plus directe pour transporter dans le royaume du fantastique les lecteurs ou les spectateurs qui n'ont pas l'habitude de le visiter. Mais la paternité de ce concept ne saurait être attribuée à Serling. Ray Bradbury avait entrepris de juxtaposer l'horrible et le quotidien dès les années 1940, et lorsqu'il décida d'explorer des contrées plus étranges et de découvrir de nouveaux usages du langage, Jack Finney fit son entrée en scène pour reprendre le flambeau de ses mains. Dans un recueil de nouvelles d'une importance capitale intitulé « The Third Level », que l'on pourrait considérer comme l'équivalent littéraire des peintures de Magritte, voir le train sortant de la cheminée, ou de Salvador Dali, voir les montres molles sur les branches des arbres, Finney a arpenté bien avant Serling le territoire de La Quatrième Dimension. Dans Le Troisième Sous-sol, il raconte l'histoire d'un homme découvrant le troisième niveau de la gare de Grand Central, laquelle, je le précise pour ceux qui ne connaissent pas ce merveilleux bâtiment, n'en a que 2. Ce troisième niveau est une sorte de relais temporel permettant d'accéder à un passé plus simple et plus heureux. La Belle Époque, où se réfugient tant de personnages de La Quatrième Dimension, et celle-là même où retourne Finney dans son célèbre roman Le voyage de Simon Morley. Le troisième sous-sol de Finney satisfait de bien des façons à la définition que Serling donnait de la quatrième dimension. Et c'est sans doute le concept imaginé par Finney qui a rendu possible la création de Serling. Ce qui fait entre autres le talent de Finney, c'est son habileté à faire passer le lecteur dans un autre monde de façon subtile et presque naturelle. Voir cet homme qui, en fouillant dans son porte-monnaie, y trouve une pièce de 10 cents où figure le portrait de Woodrow Wilson, plutôt que celui de Franklin D. Roosevelt. Ou cet autre qui part pour l'idyllique planète Verna à bord d'un antique autobus que l'on finit par retrouver dans une grange en ruine. Des personnes déplacées. La plus grande réussite de Finney, à laquelle font écho les meilleurs épisodes de la quatrième dimension, ainsi que les meilleurs écrivains de fantastique nourris au lait de cette série, c'est cette capacité d'Alien de créer un univers fantastique sans chercher à l'expliquer ni à s'en excuser. Cet univers est là, fascinant et un peu inquiétant, un mirage trop réel pour être nié. Une brique flottant au-dessus d'un réfrigérateur, un homme mangeant un plateau repas couvert de globes oculaires, des enfants jouant avec leurs dinosaures dans une chambre en désordre. Si le fantastique semble assez réel, insiste Finney, et Serling après lui, alors on n'aura pas besoin de ficelles ni de trucage optique. Ce sont Jack Finney et Rod Serling qui, après H.P. Lovecraft, ont fait franchir au fantastique une nouvelle étape dans son évolution. Pour mes contemporains et moi-même, ce fut là une stupéfiante révélation qui nous ouvrait des horizons infinis. Et cependant, Finney, qui comprenait peut-être mieux que quiconque la quatrième dimension telle que la définissait Serling, ne fut jamais associé à la série, ni en tant que scénariste, ni en tant que source d'inspiration. Serling adapta par la suite son roman « Assault on a Queen », mais le résultat ne peut être qualifié que de mal inspiré. Le hold-up du siècle est un film statique et prêchi-prêcha, deux des principaux défauts de ses scripts pour la quatrième dimension. Il est navrant de constater que la rencontre de deux esprits aussi proches n'ait pu déboucher que sur cet échec. Et si vous êtes déçu par mon analyse de la quatrième dimension, et je suis sûr que certains de mes lecteurs seraient prêts à me traiter d'iconoclaste, je vous conseille de vous procurer de toute urgence un exemplaire de « The Third Level », et vous verrez alors ce que la série de Serling aurait pu être. Mais la quatrième dimension nous a quand même laissé une foule de souvenirs frappants. Et il est permis d'être d'accord avec Serling quand il affirme qu'un tiers des épisodes étaient fichtrement bons. Les fidèles de la série se rappellent encore William Shatner, captivé par une machine à lire l'avenir dans le restaurant miteux d'un village minuscule. Les prédictions. Everett Sloan succombant à la fièvre du jeu. Un épisode où le cliquetis des pièces de monnaie « Franklin » l'attirait irrésistiblement vers une diabolique machine à sous. La femme superbe qui est victime de sa laideur dans une société d'humanoïdes au visage porcin. Donna Douglas, vedette de « The Beverly Hillbillies » dans l'œil de l'admirateur. Sans oublier, bien entendu, ces deux classiques de Richard Matheson, « Les envahisseurs », où Agnes Moorehead, excellente, affronte de minuscules créatures, un sujet que Matheson reprendra par la suite dans sa nouvelle Gibier, et Cauchemar à 20 000 pieds, où William Shatner interprète un malade mental en voie de guérison qui voit un sinistre gremlin saccager le moteur de l'avion où il a pris place. La quatrième dimension a par ailleurs accueilli une pléiade d'acteurs. Edwin, Keenan Wynn, Buster Keaton, Jack Klugman, Frenchot Stone, Art Carney, Pippa Scott, Robert Redford et Cloris Leachman, entre autres. De scénaristes et de metteurs en scène, Buzz Kulik, Stuart Rosenberg et Ted Post, pour n'en citer que quelques-uns. On y entendait souvent une musique aussi surprenante qu'efficace, due au regretté Bernard Herrmann. Les meilleurs effets spéciaux étaient l'œuvre de William Tuttle, lequel n'est sans doute surpassé dans ce domaine que par Dick Smith, ou par ce nouveau génie du maquillage qu'est Tom Savini. C'était une assez bonne série, tout comme la plupart des séries télé qui ont laissé un souvenir durable, mais rien de plus. La télé est la plus grande dévoreuse de talents de notre époque. Et si la quatrième dimension n'est pas tout à fait à la hauteur du souvenir que nous en gardons, la faute n'en incombe pas à Serling, mais à la télévision elle-même, ce monstre affamé, ce puits de merde sans fond. Serling a écrit au total 84 épisodes, soit 2200 pages de script, si l'on se fie à la règle empirique qui veut qu'une page équivaille à une minute de film. C'est là une œuvre titanesque, et il n'est guère étonnant que l'on trouve dans le lot des navets comme Un matin noir. Kimberly Clark et Chesterfield Kings ont empêché Rod Serling de donner toute sa mesure. Et ensuite, la télévision l'a mangé. 6. Je pense qu'il est grand temps d'abandonner la télé pour passer à autre chose. Je n'ai pas le cœur à tirer sur les ambulances qui foncent toutes sirènes hurlantes vers le cimetière des séries disparues. Je me suis même efforcé d'être indulgent avec Dossier brûlant, une série pour laquelle je ne peux pas m'empêcher d'éprouver une certaine affection. Elle n'était pas terrible, d'accord, mais on pourrait en dire autant des films de série B qui ont fait la joie de ma jeunesse, des films comme Le Scorpion Noir ou The Beast of Hollow Mountain, par exemple. Certaines séries nous ont offert des incursions dans le surnaturel que l'on pourrait qualifier de brillantes. Alfred Hitchcock présente, par exemple, a adapté à plusieurs reprises des nouvelles de Ray Bradbury. La meilleure adaptation étant sans doute Le Bocal, ainsi qu'un conte terrifiant de William Hope Hodgson, La chose dans les algues, et une nouvelle glaçante de John D. MacDonald, The Morning After, et les fans se souviennent encore de cet épisode où les flics mangeaient l'arme du crime, un gigot d'agneau, épisode inspiré d'une nouvelle de Roald Dahl. On pourrait encore mentionner They're Coming, le pilote d'une heure de la quatrième dimension, et le court-métrage français La rivière du hibou, adaptation d'une nouvelle d'Ambrose Bierce qui fut diffusée à la télévision américaine dans le cadre de La quatrième dimension, mais qui n'est pas rediffusée par les chaînes locales. Une autre histoire de Bierce, portée disparue, fit l'objet d'une adaptation sur la chaîne PBS en 1979. Et à propos de PBS, on a également pu y voir une intéressante adaptation de Dracula. Diffusée pour la première fois en 1977, elle voyait Louis Jourdan endosser la cape du légendaire comte. Il s'agit d'un téléfilm romantique et morbide à souhait. Louis Jourdan y est plus convaincant que Frank Langella dans le film de John Badham, et les scènes où l'on voit Dracula ramper sur les murs de son château sont tout bonnement merveilleuses. En outre, cette adaptation aborde franchement l'aspect sexuel du vampirisme, nous présentant Lucy, les trois sœurs et Dracula lui-même comme des créatures dotées d'une sexualité exempte d'amour, une sexualité meurtrière. Un film nettement plus efficace que La bluette sentimentale de Badham, en dépit de l'énergie dont fait preuve Langella dans le rôle-titre. Jack Palance a également interprété Dracula à la télévision, sur un scénario de Matheson et dans une production de Dan Curtis, et s'en est plutôt bien tiré, même si je préfère l'interprétation de Jourdan. Les autres téléfilms d'horreur vont du médiocre, l'adaptation mal inspirée du roman de Thomas Tryon, La fête du maïs sur NBC, au franchement grotesque. Cornel Wilde dans Gargoyles, Bernie Casey dans le rôle de la gargouille en chef, ressemble à un croisement entre Mathusalem et l'Ayatollah Khomeini. Et Michael Sarrazin, dans cette erreur de la nature qu'est Frankenstein, The True Story. Le risque encouru est si grand que lorsque mon roman Salem a été adapté pour la télévision, après que Warner eut renoncé à en faire un film au bout de 3 ans d'efforts en ce sens, j'ai éprouvé un certain soulagement en découvrant le résultat final. Pendant un temps, il a été question que NBC en tire une série hebdomadaire. Et vous devinerez sans peine quelle a été ma réaction lorsque ce projet fumeux a été abandonné. La plupart des feuilletons télé relevant du fantastique vont du grotesque, Land of the Giants, au complètement stupide, Les Monstres, Struck by Lightning. Les anthologies qui nous ont été présentées ces 10 dernières années avaient pour la plupart de bonnes intentions, mais elles ont été émasculées par les groupes de pression, que ceux-ci émanent des spectateurs ou des chaînes elles-mêmes. Elles ont été sacrifiées sur l'autel de la léthargie que la télévision américaine a érigé au fil des ans. Il y a eu Journey to the Unknown, un produit d'importation britannique, dû au studio de la Hammer. Certains de ces épisodes étaient excellents, mais les pontes de la chaîne ABC ont eu vite fait de nous faire comprendre qu'ils n'avaient pas l'intention de nous terrifier, et cette série a disparu sans plus de cérémonie. Bizarre Bizarre, produite par Quinn Martin, responsable de « Sur la piste du crime », « Du fugitif », « Des envahisseurs », « Du gant de velours » et de Dieu sait combien d'autres séries, était plus intéressante et se concentrait davantage sur la terreur psychologique. Dans un épisode qui m'a rappelé La maison d'à côté, le roman d'Anne Rivers-Siddons, un assassin voit sa victime revenir d'entre les morts dans son poste de télévision. Mais elle n'a pas tardé à succomber à l'indice d'écoute. Un sort qui aurait pu être celui de la quatrième dimension si CBS n'avait pas tenu bon. Pour me résumer, je dirais que l'histoire du fantastique et de l'horreur à la télévision est aussi brève qu'attristante. Éteignons donc l'étrange lucarne et passons dans la bibliothèque. Je voudrais vous entretenir de certaines histoires qui n'ont pas à souffrir de limites artificielles, que celles-ci soient imposées par le poids de l'image ou par celui de la censure, et dont l'auteur est libre de vous attraper quand ça lui chante. Voilà un concept plutôt troublant, et certains des livres dont nous allons discuter m'ont terrifié en même temps qu'ils m'enchantaient. Peut-être que vous avez déjà fait la même expérience, ou que vous ne tarderez pas à la faire. Prenez mon bras et suivez-moi.